toi, on va se faire un petit bloc football, mon ami. Jacinthe Ève Harel, salut, comment ça va?
Salut tout le monde, ça va très bien, merci.
Merci d'être là avec nous autres. Denis qui n'est pas là le vendredi, donc on aimerait bien t'avoir le plus souvent possible. Fait qu'on va jaser de plein de sujets d'actualité. À commencer par le premier ministre Mark Carney qui a annoncé ce matin aux petites heures des accords avec la Chine sur les droits de douane réciproques et sur l'importation de véhicules électriques au cours d'une visite qui a été saluée comme le début d'un nouveau partenariat avec des années de brouille avec la Chine. Ça, moi, ça m'annonce rien de bon. Là. Quand on est rendu ami avec la Chine pour faire de la business. J'aurais préféré qu'on se mette peut-être un peu plus près du Mexique, peut-être un peu plus près, tu sais, essayer de se mettre ami un peu plus avec Donald Trump, voir si on pourrait pas faire affaire avec des pays européens qui nous ressemblent peut-être un peu plus. Là, la Chine, moi, ça m'inquiète. Puis l'industrie automobile du véhicule chinois est extrêmement dominant, surtout en ce qui a trait à l'électrique. Tu fais rentrer ça au Canada, je pense qu'il y a des entreprises, des constructeurs automobiles qui doivent commencer à être stressés ici. Là.
Absolument. C'est l'Ontario qui va être la première touchée. C'est sûr que dans cette entente stratégique-là, Mark Carney a ouvert la porte aux entreprises chinoises de venir s'intégrer dans nos chaînes là, de production de véhicules. Donc, c'est non seulement on ouvre la porte en faisant passer là, la surtaxe qui était à 100% sur les véhicules électriques chinois, on l'a fait baisser à 6,1% pour 49 000 véhicules électriques chinois. Mais on va bien au-delà de ça. On ouvre aussi la porte à l'industrie chinoise de s'intégrer là, dans notre industrie de véhicules, en Ontario principalement. C'est peut-être une façon pour Mark Carney d'essayer d'adoucir ou de faire passer la pilule auprès de Doug Ford en disant « Bien, inquiète-toi pas, il va y avoir aussi des partenariats d'affaires qui vont se faire dans la chaîne de production de véhicules. » Mais en même temps, tu l'as bien dit, Yannick, ils sont dominants, les Chinois. Ils ont énormément de longueur d'avance. Alors, de voir comment ça va s'articuler tout ça, en ouvrant le marché à des industries qui sont déjà dominantes et ont aussi des volontés impérialistes, hein, parce qu'on était très bons au Québec pour voir toutes les stratégies impérialistes, ou c'était pas toujours le mot impérialiste qu'on utilisait, mais on était très bons là, pour voir que Donald Trump voulait ci, voulait ça, affirmer sa dominance économique ou retrouver sa posture de souveraineté économique. Mais quand vient le temps de se tourner vers la Chine, c'est comme si on est plus naïf ou on a pas la même méfiance. Puis tu as raison de le souligner. On vient de serrer la main du diable. On vient aux yeux de Donald Trump, aux yeux de l'administration américaine qui est notre partenaire économique le plus important et qui sera toujours le plus important. On vient de s'allier, on vient d'annoncer que l'ennemi juré ou l'adversaire principal de notre voisin du Sud, nous, on s'acoquine avec l'adversaire économique principal de notre voisin du Sud. Donc c'est quand même une posture vraiment très risquée.
Jacinthe, c'est 49 000 véhicules chinois qu'on fait rentrer au Canada et des droits de douane qui sont assez préférentiels. On parle de 6,1%. Donc, c'est un retour au niveau qu'on avait, là, donc au niveau antérieur aux mesures de rétorsion mutuelle. C'est ce que Mark Carney a mentionné. La réaction, parce que je vais être très honnête avec toi, là, on me parlait de cette visite-là de notre premier ministre du Canada en Chine et je me suis dit, il va aller chercher des leviers de négociation. En disant à Trump, écoute, si tu ne fais pas affaire avec nous autres on pourrait avoir un beau deal de véhicules qu'on pourrait faire rentrer. On va pouvoir envoyer nous autres nos produits agroalimentaires là-bas. Toi, qu'est-ce que tu as à nous offrir? Tu vas-tu enlever des tarifs et tout ça? Mais là, ce n'est pas ça. Il a réalisé déjà le deal avec les Chinois. Ça va être quoi la réaction de Donald Trump et de l'administration Trump?
Je vais passer mon avant-midi à rafraîchir Truth Social, la plateforme de réseau social sur laquelle Donald Trump s'exprime souvent en premier.
On fait la même affaire.
Ah ouais, hein? On a bien hâte de voir sa réaction, c'est sûr. Mais moi, je vois Mark Carney s'inscrire dans une dynamique assez confrontante face à Donald Trump depuis plusieurs mois. Il a mené sa campagne électorale sur cette idée qu'on était, que rien ne serait plus jamais pareil avec les États-Unis. Il le disait hein, textuellement, la relation du Canada avec les États-Unis telle qu'on la connaissait ne reviendra plus, c'est terminé, c'est complètement fini. Et moi, j'en revenais pas durant sa campagne électorale de le voir aussi sûr de lui qu'on ne pourrait pas arranger les choses et que ce serait de même là, définitivement cette rivalité, ce conflit avec notre voisin du Sud, ça ne reviendrait plus, les choses ne reviendraient plus. Et ça m'étonnait beaucoup de ne pas le sentir dans une posture qui tente ou qui voulait tenter de ramener les choses. Et depuis qu'il est élu, ben, c'est ce qu'il fait. Il est dans le même courant, dans le courant où on annonce à Donald Trump, ça sera plus jamais ça sera plus jamais la même chose. C'est une posture de confrontation et c'est extrêmement risqué. Moi, je commence à avoir des craintes. J'analyse la politique rarement avec les sentiments, mais là, je commence à avoir des craintes parce que, on le sait, tout se joue dans l'Arctique. Pour la prochaine décennie, les deux prochaines décennies, tout va jouer dans l'article où la Chine revendique une présence et des droits en Arctique. Elle est supportée par la Russie aussi. On a l'histoire du Groenland qui est une terre stratégique. Et à travers tout ça, nous, on multiplie là, les affronts à notre voisin du Sud qui est quand même aussi la puissance militaire de laquelle on a toujours dépendu. Je ne comprends pas où on s'en va, à part vers une dynamique de plus en plus conflictuelle et confrontante à l'égard de notre voisin du Sud.
Hâte de voir la suite. Toujours est-il que Doug Ford devrait réagir très rapidement. Même chose pour ce qui est de Donald Trump. Puis on va suivre ça pour vous autres toute la journée sur les ondes de Boulevard 102.1. Autre chose que je voulais aborder avec toi, la coalition Avenir Québec qui a perdu son chef, François Legault, qui va rester en place jusqu'à temps qu'on mette un nouveau premier ministre en place. Christine Fréchette semble être la première candidate. Il y a beaucoup de gens qui semblent l'appuyer à l'intérieur du parti. Moi, il y en a un qui me laisse mitigé, puis j'aimerais ça jaser de ce dossier-là avec toi, parce que c'est un gars qui fait pas de politique. Il s'appelle Olivier Primo. C'est un influenceur. C'est un gars qui fait des revues sur de la nourriture quand il va manger dans des restaurants. Puis ce qu'on me dit, c'est que quand Olivier Primo se ramasse dans un restaurant, puis il y a une bonne note sur 10, bien, le restaurateur se ramasse avec de la business pendant des semaines et des semaines supplémentaires. Donc, c'est un gars qui pourrait changer la donne. C'est un gars qui pourrait faire vendre des cartes de membres de la Coalition Avenir Québec pour faire mousser sa candidature puis avoir plus de votes. Tu crois-tu aux chances d'Olivier Primo? Puis en même temps, tu penses-tu que les journalistes vont lui laisser des passe-droits?
Ben, tu as raison de souligner que c'est un homme d'affaires extrêmement populaire et il a pris beaucoup de place dans l'espace médiatique au cours de la dernière année particulièrement, où il s'exprime beaucoup sur la politique. Alors, on sent qu'il semble travailler le terrain, il semble avoir un agenda politique, mais il laisse beaucoup de mystère aussi sur quel est exactement cet agenda. Je pense qu'on l'a entendu hier sur d'autres tribunes dire qu'il n'était pas intéressé là, par la coalition Avenir Québec, mais on sent qu'il y a un intérêt pour la politique. Et bien que pour moi, sa candidature, je la trouverais, là, parce qu'on va parler au conditionnel, parce qu'il n'y a rien de confirmé. Et au contraire, il disait que ça ne l'intéressait pas. Mais c'est vrai que son nom circule. C'est vrai qu'on voit qu'il semble mettre la table pour éventuellement faire un saut en politique. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quel palier, puis on ne sait pas avec quel parti non plus. Ça pose la question, est-ce qu'on est rendu à faire de la politique occupation double?
Ouais,
love
ça,
story.
Ouais, mais ça toujours, la politique a toujours été un concours de popularité. Puis tu sais, moi, la démocratie fait en sorte que tout le monde peut se présenter. Là, on a une situation particulière. C'est que François Legault, c'est un premier ministre démissionnaire, toujours en mandat. Puis la personne qui va remporter la chefferie de la Coalition Avenir Québec va devenir automatiquement premier ministre non élu par la population, bien entendu, mais il va avoir les clés du char. Moi, je ne laisserais pas ça à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, que ce soit un homme homme ou une femme, je laisserai pas ça à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. J'aimerais voir quelqu'un qui est là depuis quelques années en politique, puis qui connaît un peu la politique à la chefferie de la coalition Avenir Québec jusqu'aux prochaines élections. Par la suite, ils seront en mesure de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, tu donnes les clés de mon char à quelqu'un qui ne sait pas conduire, ça m'intéresse pas, là.
Oui, ben parce que, ben oui, parce que de toute façon, en politique, là, il y a toutes sortes de volets à ce travail-là, mais juste le volet parlementaire, juste comprendre les règles de l'Assemblée nationale, comprendre comment... je me souviens, en campagne électorale, justement en 2018, en 2018, j'étais candidate avec la Coalition Avenir Québec et je parlais avec des gens qui sont devenus aujourd'hui ministres et je leur disais, hey, j'ai tellement hâte de travailler sur des projets de loi. Et... j'ai fait beaucoup rire certains de ces candidats qui faisaient campagne avec moi, qui sont devenus aujourd'hui ministres, mais ils me disaient « Arc, t'as vraiment hâte de travailler sur des projets de loi, c'est la pire affaire, c'est ce qui me tente le moins. » Et je souris toujours maintenant parce que je les vois déposer des projets de loi. Tout ça, c'est quand même un travail très lourd. Et oui, ça exige une fine connaissance, ça exige de l'expérience. Mais il ne faut pas oublier, là, avec cette histoire de chef de la CAQ, là, il y a un enjeu fondamental, c'est qu'on a tendance à mettre tout sur les épaules et tout sur la faute de François Legault parce que c'était le chef ultime de ce parti politique. Mais il reste que si le parti ne change pas sa structure et il ne change que sa façade, change juste son apparence, mais ne change pas son fond, on va se retrouver avec les mêmes problématiques, là. Est-ce qu'on veut une CAQ qui change de cap ou qui change seulement de visage? Et les électeurs ne sont pas dupes, ils ne vont pas confondre les deux.
Bien, je voyais hier, Jacques-Saint-Ève, dans le journal, des sources caquistes qui mentionnaient aux journalistes, hey, juste avec la nouvelle de la démission de François Legault, là, rien d'autre, là, pas de nouvelle course encore, juste la nouvelle de la démission de François Legault, on va aller chercher un 6-7 points dans les sondages. Voyons donc, là, c'est de la pensée magique.
Bien, c'est de la pensée magique, mais c'est là où on se fait tester comme population, puis comme citoyen et comme électeur aussi. On va se faire tester, là. Est-ce qu'on comprend bien les dynamiques ou on reste en superficialité dans nos analyses personnelles là, et individuelles? Est-ce que de changer un chef, ça change complètement la trajectoire d'un parti? mais effectivement, on veut les mordus de politique comme nous, ceux qui en mangeons à tous les jours. C'est sûr qu'on veut qu'il y ait plus de profondeur, qu'il y ait plus de substance. Changer un chef, ça ne change pas la trajectoire d'un parti politique. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture claire? Est-ce que suite au départ de François Legault, on fera face à une rupture claire et un changement de trajectoire? Parce que une des choses dont on ne parle pas, là, mais beaucoup, mais la CAQ, elle ne gouverne plus l'appareil public. Elle a fini par être gouvernée par son appareil public. L'appareil public, là, l'administration publique, a pris le contrôle dans plusieurs dossiers de la gouvernance de nos services publics. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est paralysé, on n'a pas l'impression d'en avoir pour notre argent dans nos services publics. Est-ce qu'on va avoir un chef qui va prendre la même trajectoire ou qui va réellement s'approprier l'appareil public et dire « OK, là, c'est nous le boss. On a été élus avec des mandats clairs de la population pour redresser les choses et pour ne pas se faire manger par un ogre. » Parce que je compare souvent l'administration publique à un ogre qui a toujours faim puis qui a plus faim puis veut plus d'argent, il veut plus de fonctionnaires, il veut plus de programmes, il veut plus de pouvoir, il veut plus de réglementation. Et ça amène encore plus d'une fonction publique de plus en plus gourmande en termes d'argent, mais aussi de ressources humaines. Et on se retrouve avec les problèmes qu'on connaît maintenant.
Quand on parle de la chefferie de la Coalition Avenir Québec qui devra se trouver un nouveau chef, on amène le nom de Christine Fréchette à la Coalition Avenir Québec. On en parlait hier avec Marc-André Leclerc. J'ai parlé hier avec une analyste politique. J'ai fait 2-3 appels pour des gens qui sont à la Coalition Avenir Québec. Puis on nous parle de Christine Fréchette. Et en deuxième, on nous parle de Sonia Lebel. On entend aussi Simon Jolin-Barrette. Parmi ces trois candidats-là, lequel ferait le meilleur chef ou la meilleure chef? Et sinon, toi, est-ce que tu en vois d'autres actuellement?
Bien, pour être cohérente avec ce que je viens de dire, la Coalition Avenir Québec avait le vent dans les voiles en 2018 lorsqu'elle s'est fait élire au pouvoir pour la première fois. Elle s'est fait élire parce qu'elle avait promis de redresser nos services publics, d'avoir une saine gestion des finances publiques, d'avoir des services efficaces. Elle s'est fait élire sur un projet aussi économique fort. On voulait rendre le Québec plus riche, rendre les Québécois plus riches. Et ce discours-là serait totalement et très fidèlement porté par Simon-Jolin Barrette. Simon-Jolin Barrette incarne, selon moi, ce qu'il y a de plus fidèle aux valeurs fondatrices de la Coalition Avenir Québec. C'est celui qui est le plus enraciné dans les raisons qui ont mené à la création de ce parti-là. Alors moi, je pense que Simon-Jolin Barrette, en plus d'incarner ce que la Coalition Avenir Québec, ce pourquoi elle a été créée, il est resté fidèle à ces valeurs-là, bien, il a livré la marchandise depuis 7 ans, il a livré un paquet de projets de loi. Je vous fais penser au tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale, quelque chose de très concret dans la vie des gens. La loi sur la laïcité de l'État, la loi sur les langues officielles, la loi 96. Donc, c'est un homme qui travaille extrêmement fort, qui est très rigoureux. Tous ceux qui vont me dire, là, oui, mais là, le charisme, lâchez-moi ça, le charisme, là.
Mais pense au concours de popularité que je t'ai dit tantôt. La politique, ça a toujours été un concours de popularité, Jacinthe-Ève.
Ben, à ce moment-là, on ira avec peut-être une femme avec le fameux discours qu'on est dû pour avoir une femme comme première ministre.
Je veux pas être misandre, là, mais moi, je trouve qu'à la Coalition Avenir Québec, des dernières années, c'est un show de mon oncle. De voir une Christine Fréchette arriver, je trouverais ça tout à fait rafraîchissant, d'autant plus que c'est une femme extrêmement intelligente, une bonne communicatrice,
oui,
qui est capable d'être rassembleuse de ce qu'on comprend. Moi, je la connais pas personnellement, mais à l'interne, on me dit que c'est une grande rassembleuse. Puis on lit dans les journaux ce matin qu'elle a un grand cœur. Fait que quelqu'un d'intelligent qui rassemble les gens puis qui a un grand cœur, pourquoi pas l'essayer plutôt qu'à d'avoir encore un show de mononcle?
Ah bien, c'est certain que Christine Fréchette incarne la continuité de François Legault. Alors, si c'est ce qu'on souhaite, d'incarner la continuité, parce que François Legault est aussi un homme qui s'entend bien avec les gens, il a une belle personnalité, il est sympathique. Christine Fréchette, c'est la même chose, elle a une belle personnalité, les gens l'apprécient, aiment travailler avec elle, elle n'a pas un égo démesuré comme d'autres pourraient l'avoir au sein de la Coalition Avenir Québec ou en politique en général. Donc, elle a une tête sur ses épaules, tu l'as bien dit. Mais elle s'inscrit dans la continuité de ce que François Legault a fait,
okay,
et la trajectoire qu'il a pris.
Les Christopher Skeet, Yann Lafrenière, qui ne ferment pas la porte, qui...
Faut t'allumer ton micro.
Tu peux rajouter Jean-François Simard dans la liste.
Ils sont une couple qui disent qu'ils vont peut-être... C'est-tu juste qu'ils veulent aller chercher un peu d'attention?
Ils veulent se mettre dans le cadre.
Bien, ça peut être une stratégie aussi pour que leur poids soit plus important lorsqu'il vienne le temps d'appuyer un des candidats officiels. Lorsque la course sera réellement lancée puis que les candidatures officielles seront dévoilées, seront annoncées, de s'être identifié comme un candidat potentiel aspirant à la chefferie d'un parti, si finalement il change d'idée, entre guillemets, parce que peut-être que finalement l'intention de se lancer dans la course à la chefferie n'a jamais été complètement réelle, ça permet d'avoir un appui plus fort et peut-être de marquer des points auprès d'un candidat pour éventuellement peut-être être nommé ministre dans un futur remaniement ministériel, parce qu'on sait qu'au bout de cette course à la chefferie-là, il y aura un remaniement ministériel. Alors, s'attirer la faveur de notre poulain gagnant, ça peut être aussi une stratégie de dire « Ah, ben moi, j'y pense ». Et puis par la suite, ben, quand on dit « Ah non, mais finalement, je me rallie à tel candidat », eh bien là, notre ralliement a un poids réel.
Tu jases à beaucoup de politiciens, tu parles beaucoup à du staff politique. On essaie de faire la même chose aussi de notre bord dans la communauté. On parle beaucoup de Geneviève Guilbeault, mais quand je parle à des gens de la Coalition Avenir Québec ou des analystes, on nous dit qu'à l'interne, Geneviève Guilbeault, c'est loin d'être la préférée de tout le monde. Là. Elle serait au bas de la liste là, parmi les choix. Je trouve ça assez particulier parce que dans la société, des gens qui l'aiment beaucoup, il y en a d'autres qui l'aiment peut-être un peu moins. Mais à la Coalition Avenir Québec, à tous ceux à qui j'ai parlé, il n'y a personne qui la voit comme première ministre du Québec.
Non, effectivement, c'est des bruits qui courent depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau de cette année. Depuis qu'elle est à la Coalition Avenir Québec, elle, elle est au cœur de toutes sortes de controverses ou de tensions, disons-le comme ça. Elle fait partie de ceux qui ont une personnalité forte, elle fait partie de ceux qui ont un peu plus de conflits de personnalité ou d'enjeux d'égo avec d'autres élus. Alors, effectivement, elle ne fait pas l'unanimité et c'est pas... On est loin d'une Christine Fréchette que tout le monde apprécie et que tout le monde aime discuter. On est ailleurs, effectivement. Et là, ben, avec ce qui est sorti sur le commissaire Galland qui a prévenu que dans son rapport qui va sortir le 14 février prochain, je vous le rappelle, donc dans moins d'un mois, on va avoir le rapport de la commission Galland, il a déjà prévenu Geneviève Guilbeault et des membres de son cabinet qu'ils allaient être écorchés dans ce rapport-là. Là. Donc, par courtoisie, ils ont été avisés et ça, l'information a coulé hier. Alors, ça n'a pas coulé pour rien. Qui a avantage à faire couler ça? Bien, ce sont des gens qui se sont coltaillés avec elle ou qui l'apprécient peu. Alors, ça évoque déjà que ça confirme un peu ce qu'on entend sur... La personnalité peut-être un peu plus conflictuelle de Geneviève Guilbeault. Et de toute façon, ben ça la discrédite là, quand le commissaire dit votre témoignage ou il y a des parties de votre témoignage qui n'étaient pas crédibles. Comment on peut penser ensuite se dire ben cette personne-là va être crédible comme première ministre? J'ai l'impression que là, les carottes sont cuites pour elle. Là.
Son monde s'écroule.
Ouais. Présentement, on a comme l'impression que tout le monde veut un peu se présenter. Mais si finalement, toutes ces candidatures-là qui semblent peu crédibles décident de pas vraiment se présenter, puis qu'un Simon Jean Barrette, une Geneviève Guilbeault ou encore une Sonia Lebel décident de pas se présenter, est-ce qu'on pourrait voir contre toute attente, éventuellement, tout simplement un couronnement de Christine Fréchette?
Ah oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Oui, absolument. Et il y a aussi l'autre option quelqu'un arrive de l'extérieur dont on n'a pas parlé encore. Je vais y aller avec un nom complètement le champ gauche hypothétique, mais vous allez comprendre l'image. Mais un Paul Arcand arriverait. Ça pourrait faire... ça pourrait résulter en un couronnement ou une course très rapide ou une course avec moins de joueurs. Donc, quelqu'un de l'extérieur qui arrive avec une forte crédibilité, une forte notoriété. Et tu parlais d'Olivier Primeau, Yannick, mais on a longtemps parlé de Mario Dumont, mais Mario Dumont l'a répété à maintes reprises que ça ne l'intéressait pas. Le service, le sacrifice public, il l'a déjà eu, mais le sens du sacrifice public, il ne l'a plus et il ne veut plus l'avoir. Mais un Paul Arcand, par exemple, arriverait et ça pourrait écraser toute volonté des ministres actuels ou même des députés de se lancer dans cette course-là. Puis pensez-y, là, c'est quand même tentant pour tous ces gens-là de se faire dire, de se faire poser la question par un journaliste, est-ce que vous y pensez, est-ce que ça vous tente? Et ils sont quand même dans un espace, dans un environnement, dans un momentum où ils n'auront jamais été aussi près de peut-être se percevoir dans la chaise du premier ministre. Alors, la tentation est forte. Donc, de dire « j'y pense », c'est une chose. Probablement que plusieurs d'entre nous, dans cette posture-là, dirions « ah ben oui, j'y pense, bien sûr. J'ai jamais été aussi près de cette possibilité-là. » Mais de là à poser sa candidature de façon sérieuse et de se lancer dans toute cette aventure-là, c'est autre chose. Parce que, oui, oubliez pas, s'ils sont obligés de démissionner comme ministre pour faire la course à la chefferie, ensuite, ça ne garantit pas un chef de ministre. S'ils perdent la course à la chefferie, ils pourraient se retrouver le bec à l'eau avec un poste de simple député et avoir dit au revoir à ses privilèges de ministre qui viennent quand même avec une bonne bonification salariale, avec un chauffeur et avec plusieurs privilèges.
Jacinthe Evarel, on se reparle vendredi prochain?
Oui, à vendredi.
Ça va être un plaisir. Salut, Jacinthe Eve Harel, qu'on peut entendre une fois de temps en temps sur les zones de boulevard, qui est animatrice aussi au 99.5 à Montréal. Vous pouvez l'entendre, puis on la voit à télé une fois de temps en temps. Toujours sympathique de jaser avec elle. Max!
Les incidents sur la route, ça se règle tranquillement, pas vite. entre autres sur la rive nord, là, où il y avait des petites sorties de route et tout ça, mais reste quand même des points chauds. Capitale-Ouest, à partir de mi-chemin entre Seigneurial et Beau-Royal jusqu'à Laurentienne, c'est quand même pas pire jamais. Robert-Brosse-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf au Rouge, Henri-IV-Sud entre Chauveau-Ouest et Sainte-Geneviève, c'est au ralenti. La 40 direction Est entre Duplessis et Henri-IV, ralentissement considérable. Et bon, tantôt par texto, on nous disait que pour ce qui est de la fermeture de la 20, là, direction Est, hauteur de la 73, ça se réglait. Pour l'instant, ça semble pas tout à fait réglé encore. Espérons que ça puisse être le cas rapidement.
Le camion serait plus là?
Ben, on parle toujours de fermeture aux dernières nouvelles, puis encore ben du rouge sur la carte, puis il y a encore un détour qui semble se faire par la 73 Sud. Fait qu'il y a-tu des affaires à ramasser, je sais pas, là, mais la réouverture semble pas faite. 20 qui serait toujours fermé, direction Est, hauteur 73.
418-971-1021 par texto si vous avez plus d'informations pour nous. Hey, je vous fais une invitation pour le combat de l'année, si ça vous tente de venir vous battre avec nous autres, ça serait bien cool. En fait, c'est pas vous battre contre nous autres, c'est avec nous autres. Ça va se passer le 12 février à 18h. Ça se passe où? Ça se passe à Citadelle de Québec. Et pour la toute première fois, on va avoir un combat laser tag qui va opposer la gang de Boulevard avec les auditeurs puis les animateurs. Puis on va se battre contre la gang d'animateurs et d'animatrices du côté de Weekend Radio avec les auditeurs de Weekend Radio. Et là, bon, on est en période de recrutement. Fait que ça vous tente d'embarquer avec nous autres dans un combat de laser tag. Vous avez jusqu'à 13h aujourd'hui pour vous inscrire. Vous pouvez le faire au blvd.fm. Et tout ce que vous avez à faire, c'est dites-nous pourquoi vous seriez le partenaire idéal pour ce combat qu'on juge épique, bien d'avance. Les gagnants vont être annoncés aujourd'hui dans Gravel dans le retour. C'est à ne pas manquer. Visitez carnaval.qc.ca pour découvrir toute la programmation. Max, tu vas-tu être là?
Oui.
T'as-tu commencé à t'entraîner?
Pas encore. Je vais recevoir mon tapis de marche là, dans les prochains jours. Il n'est pas encore livré, mon tapis de marche.
Un tapis de marche.
Pour du laser tag.
Tu peux-tu courir sur ce tapis de marche-là ou juste marcher?
Juste marcher.
T'as-tu déjà tiré sur quelqu'un?
J'ai déjà joué au laser tag.
Ah oui? T'avais-tu réalisé une belle performance?
J'ai même déjà joué au paintball.
Au paintball. Ça, c'est cool aussi.
Ça pince des fois.
Ouais, ça pince.
Laser tag, c'est le fun, ça pince pas.
Mais vous autres, votre petite génération, vous trouvez que l'eau, ça pique. Là. Donc, c'est pas surprenant de voir qu'on préfère jouer avec des lasers, ça fait moins mal. Mais ça va être une super de belle soirée. Inscrivez-vous au blvd.fm. 8h16, courte pause.
Marceau